Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La Côte des Miracles.
Non mais c'est une blague. C'est ça que vous me proposez? Donc ça y est, on y est quoi. C'est la Cour des Miracles.
Mesdames et messieurs, c'est la Cour des Miracles. Je plaisante pas.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
Tu vas tout de même aller la voir de notre part. Et tu lui diras que la Cour des Miracles ne l'oublie pas.
Moi, c'est mon émission préférée.
La Cour des Miracles, Radio PFM.
La Cour des Miracles!
Yes, bienvenue dans la Cour des Miracles sur Radio PFM 99.9. La Cour des Miracles, c'est votre dernière agora de l'électro, hip-hop, dub digital, rap aussi, un peu tout ça, ça déchire pas mal. Yes, allez, on est reparti une heure ensemble dans la Cour des Miracles, ça fait plaisir de se retrouver, maintenant c'est une fois par mois, avant j'étais toutes les deux semaines, mais bon là j'ai voulu me faire un petit peu plaisir pour potasser un peu plus certaines émissions. Voilà, émission un peu spéciale, tiens justement, je voulais parler d'un sujet de société qui est la post-vérité. Qu'est-ce que la post-vérité? Donc on va essayer d'en parler dans cette émission. Il y aura de la philosophie avec le déterminisme, nos actions au jour le jour dans notre vie parce qu'on n'est pas des PNJ. Et puis il y aura aussi normalement de la novlangue, qui avait été inventée par j'ai oublié son nom, qui avait sorti le bouquin 1984. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec la post-vérité. Qu'est-ce que la post-vérité? Vous êtes bien sur Radio PFM 99.9, c'est la Cour des Miracles.
Depuis l'élection de Donald Trump, il y a un terme que l'on voit beaucoup.
Post-vérité.
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 La post-vérité. En 2016, le dictionnaire britannique Oxford en faisait même le mot de l'année. Mais à vrai dire, c'est quoi la post-vérité?
La notion de post-vérité, c'est vraiment un contexte dans lequel les individus seraient plus attachés aux émotions, à leurs opinions personnelles, qu'aux faits et à la vérité.
La post-vérité, c'est donc de dire « je ne crois pas en ce fait parce que je n'ai pas envie d'y croire ». J'ai lu le contraire sur les réseaux sociaux. Ce chef d'État contredit ce propos. Ou mes convictions personnelles m'en empêchent. Quand Donald Trump dit que le changement climatique est un canular inventé par les Chinois, il nie un fait. Pourtant, le changement climatique existe bien. Les études scientifiques l'ont prouvé maintes fois. Mais ses intérêts politiques et ses convictions vont à l'encontre de cette réalité. Et donc, le président américain choisit tout simplement de contester l'existence même du phénomène climatique. Mais alors, en quoi la post-vérité est un problème et devient une menace pour nos démocraties selon certains? Eh bien parce que dans un monde où le mensonge et la vérité se valent, qui croire? À qui et à quoi se référer? Comment distinguer le vrai du faux si la parole officielle d'un chef d'État ne repose plus sur des faits?
C'est-à-dire que le mensonge, peu importe le format qu'il peut prendre techniquement, une fake news, un deepfake, de la rumeur, de la décontextualisation, peu importe, en fait, ce sont des stratégies d'encerclement cognitif et en fait un refaçonnage d'une certaine façon des opinions publiques et de l'agenda médiatique. Peu importe la question de la vérité, elle ne compte plus, ou plus exactement du régime de vérité qui est en train d'être refaçonné. Ça, c'est très important à comprendre.
Post-vérité, infodémie, infocalypse, les nouveaux termes pour décrire les flux de désinformation témoignent de notre époque où l'on vient à douter des faits. Un constat qui vient bouleverser le fonctionnement même de nos sociétés et de nos démocraties.
Jean-Claude Troll a encore frappé.
Depuis qu'il a été élu conseiller municipal, il conteste toutes les décisions du maire. La dernière en date, interdire dans le centre-ville les voitures qui roulent au grappole, un carburant qui pollue 10 fois plus que les autres. Jean-Claude Troll affirme qu'il n'y croit pas.
Ce sont les chiffres officiels de la mairie, c'est forcément bidonné. Et puis, chacun a le droit d'avoir son opinion.
La famille de Romain est fan de Jean-Claude Troll. Sur Internet, elle a monté un groupe de soutien au Grappol, le carburant des vrais gens de Troupeaumé. Une usine en fabrique, juste à côté, et emploie des dizaines d'habitants. Succès immédiat. Alors qui a raison? On ne devrait même pas poser la question comme ça. Le Grappol pollue. Les scientifiques l'ont prouvé, c'est un fait, et Jean-Claude Troll le sait parfaitement. Sa campagne pour le Grappol va au-delà d'une fake news. Elle exploite une nouvelle plaie de nos démocraties, la post-vérité. De quoi s'agit-il? C'est l'idée que toutes les opinions se valent, qu'il n'y a pas des choses vraies ou fausses, mais des faits alternatifs. Le changement climatique, ça se discute. Eh bien non, ça ne se discute pas. On peut discuter des politiques à mener pour le climat, voire refuser de tenir compte du changement climatique, mais le nier, c'est comme nier que 2 plus 2 égale 4.
1 plus 1 égale 2.
Non.
1.
On parle une. Ou un, on est ensemble. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2. 2 oui. plus 2 égale 4. Comme ça, on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau.
Pourtant, depuis le développement des réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y avait plus de vérité. Comment en est-on arrivé là? Retour dans la famille de Romain. Elle sait bien que des tas d'infos et de rumeurs circulent sur Internet, avec de fausses preuves. Romain lui-même a déjà encombré le réseau avec ses fakes lamentables. Quand on vous ment régulièrement, vous ne croyez plus à rien. Pas plus au discours des officiels qu'aux autres. Surtout que le maire a déjà fait des promesses qu'il n'a pas tenues dans le passé. Et puis la famille de Romain roule au Grappol. Et son oncle travaille à l'usine. Elle n'a ni envie, ni intérêt à changer de vie. Jean-Claude Troll sait tout cela. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas de dire la vérité, c'est que ses mensonges circulent sur Internet et touchent le plus de gens possible. On peut avoir du succès aujourd'hui, voire être élu, en racontant n'importe quoi. Incroyable, mais vrai.
La Cour des Miracles.
La Cour des Miracles.
Comme vous le savez, je suis en guerre contre les médias. Ce sont les êtres les plus malhonnêtes qui soient sur Terre. Je me suis réveillé ce matin, j'ai mis une des chaînes et là, ils montrent un champ vide. J'ai dit, attendez, moi j'ai fait un discours, j'ai regardé. Il y avait bien un million et demi de personnes devant moi.
Pour certains, nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité. L'après-vérité. Donc, une ère où la vérité compte moins que la croyance. Où les faits comptent moins que l'interprétation qu'on en fait. Dans cette grande confusion, ce sont pourtant à eux que l'on doit se fier. Des faits que l'on peut prouver, que l'on peut vérifier. Et aussi interroger en faisant fonctionner notre esprit critique.
Merci pour ça. Voilà, j'aimerais remercier TV5 Monde, évidemment Jean-Claude Van Damme, magnifique. Et puis Lumni, c'est une chaîne YouTube vraiment sympa qui vulgarise les faits. Donc voilà, je voulais d'abord remercier mes sources. Tiens, on va continuer dans cette première partie post-vérité dans la Cour des Miracles sur Radio PFM. J'avais oublié, oui, la novlangue qui arrive dans le livre 1984, c'est George Orwell, évidemment. Je l'avais zappé en début d'émission. On continue tout de suite. Jeanne Moreau, tiens, avec les mensonges.
Lorsque tu me regardes, je le vois bien, c'est vraiment vrai que ton regard s'en va et passe à travers moi pour se perdre au-delà de moi. Et quand je te demande sans cesse à quoi tu songes, crois-tu que je ne sens pas que tu me réponds des mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourriffer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Quand tu m'embrasses, moi je me dis mais oui, c'est pourtant vrai, tant qu'il m'embrasse, moi c'est toujours ça le prix, puisque tout passe et que tout lasse. Et quand tu me souris d'un air distrait, c'est vrai, crois-tu que je ne vois pas que tu penses à tout sauf à moi? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu mentiras, c'est que tu tiens à moi comme moi je tiens à toi, bien malgré toi. Mais tu ne le sais pas, moi je le sais, c'est pourtant vrai que toi tu es comme ça. Car moi je te connais et toi tu ne te connais pas. Je ne vis que pour toi, tu ne vis que par toi. Et pourtant toi sans moi, ça ne marcherait pas, tu ne t'en doutes pas. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu me tromperas et que tu reviendras, c'est que tu ne pourras pas te passer de moi. J'aime ta duplicité, hélas, c'est pourtant vrai. Crois-tu que je n'entends pas quand tu m'appelles, moi, de toutes sortes de nouveaux prénoms? Si tu me quittes un jour, ne t'en fais pas, c'est vrai, moi je disparaîtrai, tu n'entendras plus parler de moi. Je regretterai tes mensonges, je regretterai tes mensonges. Continue de mentir, non, ne t'en prive pas, car moi je ne peux pas vivre sans toi, car moi je ne peux pas vivre sans toi.
La cour des miracles.
PFM 99.9.
Fake news. The fake news. They tell you. Fake news. It's fake news. Fake. Fake news.
Fake news. We don't want fake news. And by the way, not everybody is fake news.
Every single person sitting in this room is now fake news.
But we don't want fake news.
I'm not finished fake news.
I'm not going to give you fake news. Don't be fake news.
So I don't know what fake news you're reading, but I guess that would be another example of, as you say, Fake news. This is fake news put out by fake news.
Fake news is trying to say good things about fake news.
A few days ago, fake news called and they said 9 fake news have confirmed. And I said, give me a break. Fake news doesn't fake news. Fake news. Fake news.
Fake news turned out.
Fake news.
A little bit of fake news.
By fake news.
Fake news.
There's a lot of fake news.
You mean fake news?
Somebody was standing in front of it.
Fake news.
For an hour and a half. Like that. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake news. I can just fake news.
Thank you.
Fake news.
Fake news. Fake news.
Never underestimate fake news. Never. I don't think it'll ever happen again.
Yes, merci à vous, Monsieur Trump. Hein, évidemment, vous êtes toujours dans la cour des miracles sur Radio PFM. Ouais, merci. Yes, on s'y croirait. Jeanne Moreau, tiens, qui vient de passer avec ce morceau Les mensonges. On continue sur le thème de la post-vérité.
Mais est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate, franchement?
Ah oui, je vous confirme. Eh bien, en fait, le problème, c'est pas tant
qu'il...
Laissez-moi répondre. Je vous le dis, c'est assez simple.
C'est une vraie question.
Le problème, c'est pas tant. Le problème, c'est pas que les gens croient que la Terre est plate. C'est qu'ils pensent qu'on leur ment sur le fait qu'elle est ronde.
Et?
Eh bien, si les gens pensent qu'il y a une espèce d'organisation fondamentale pour mentir à la population, c'est une vision du monde qui est absolument terrifiante et qui ne permet pas de vivre en société.
Auparavant, le mensonge cherchait à être discret. Et c'est là où il y a quelque chose qui a changé. C'est que auparavant et même encore aujourd'hui, la définition du mensonge, c'est qu'on cherche à ne pas être repéré, car sinon, on a à en payer le prix. Là, ce que l'on voit, c'est au contraire de la post-vérité, c'est-à-dire contredire le réel les yeux dans les yeux.
Mais et avec l'appui des médias, si je peux me permettre aussi. Est-ce que tu vois un changement, toi, qui s'opère, toi, qui a évolué aussi dans ces médias-là?
L'appui, ou à minima, l'indulgence. Le fait est que ce monde de la post-vérité nous interroge toutes et tous. La première des responsabilités, elle revient aux médias eux-mêmes. Et on voit bien comment est-ce que les digues, si tant est qu'elles aient existé, les digues sont en train de céder. Aux États-Unis, le Washington Post s'est fait pendant le premier mandat de Trump, s'est fait justement le fer de lance de la lutte contre les mensonges de Donald Trump. Ils les ont répertoriés de manière extensive, ils en ont compté en 4 ans 30 000. Ça fait plusieurs dizaines de mensonges par jour, mensonges ou imprécisions. Ouais. Le Washington Post, on a vu comment les choses ont évolué et aujourd'hui, il a été empêché de prendre position contre Donald Trump lors de cette nouvelle présidentielle. Dans le paysage politique français, comment ne pas parler de CNews ? CNews qui, il y a moins de 10 ans, on a tendance à l'oublier, était un média d'information. Alors on peut critiquer la qualité ou non de l'information, sa prétendue neutralité alors qu'aucune information n'est neutre par définition, mais auparavant ça s'appelait iTélé. Aujourd'hui, CNews a vécu une évolution de la ligne éditoriale. Il suffit d'écouter l'édito de Pascal Praud au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est un éloge. Ouais.
Certains réduiront Jean-Marie Le Pen à la séquence du détail. Et c'est sans doute bien commode de ne retenir que ses propos abjects pour ceux qui ont fait de l'anti-lepénisme leur seule raison de vivre. J'allais dire l'essentiel de leur identité. Ses adversaires de Le Pen adorent l'état dans lequel le plonge leur détestation au point de célébrer sa mort, place de la République, au goût du champagne et au son des hurrahs. Le drame pour la France tient que les provocations de Jean-Marie Le Pen, ses outrances, ont parasité son combat contre l'immigration massive et son refus d'importer sur le sol de France un islam conquérant, pour ne pas dire hégémonique. Hier, Gilbert Collard parlait de prophète et de prophétie. Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays, que cette religion, importée sur le sol de France, créait de nouvelles habitudes de penser, de s'habiller, de prier, de parler, de dîner, etc. Qu'une autre France naîtrait, qu'un danger de séparatisme existait. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Le paradoxe, mais aussi le drame, est qu'il a fait reculer la cause qu'il servait par des déclarations scandaleuses dont le détail est la plus signifiante. Jean-Marie Le Pen raconte une histoire française, celle d'un homme politique qui utilisait l'imparfait du subjonctif, citait Thucydide et Corneille et possédait une connaissance en profondeur de la France, de son histoire, à travers les siècles, de sa culture, de ses mœurs qui faisaient de lui un contemporain de François Mitterrand. Convenons que le niveau des hommes politiques aujourd'hui n'est plus le même, comme si Jean-Marie Le Pen refermait une époque qui n'a plus grand-chose à voir ni à vivre avec celle qui fut la sienne.
On est passé là, en tout cas dans ces organes de presse-là en France, à un soutien explicite à des informations qui sont de fausses informations, qui sont des fake news, débusquées, débunkées, critiquées par les sociologues, par le journalisme depuis très longtemps. Donc effectivement, il y a une responsabilité collective dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La première responsabilité, elle est chez les responsables politiques elles-mêmes et eux-mêmes. Une deuxième responsabilité, en effet, dans le milieu des journalistes et même le milieu des chercheurs. Quelque part, on est forcé de constater, et je m'inclus dedans, faisant partie en l'occurrence de ces deux groupes d'individus, on est forcé de constater qu'il y a un échec quelque part. Et puis après, la responsabilité, elle est aussi collective. Il y a, chez les citoyennes et les citoyens, on a abandonné quelque chose, on a abandonné, et quelque part, c'est humainement compréhensible, psychologiquement normal, quand on fait face à un tel flot de mensonges, à un moment donné, sans doute, finit-on par lâcher quelque chose. Mais je crois que là, nous sommes en train de basculer, et moi, c'est cela qui m'inquiète, dans un monde qui, de celui de la post-vérité, pourrait tout à fait bien devenir celui de la post-démocratie. C'est en cours aux États-Unis et en France aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de suivre la même pente.
La cour des miracles.
Jarms avec ce morceau post-vérité dans la cour des miracles.
PFM.
Soudain les passeurs dépassent les dégâts, ça n'a pas sa place à l'aube des défis du temps. L'orage est passé, tout est effacé, plus rien n'est défini. Reste à deviner, on n'a pas deviné, aucune d'entre elles n'est stable. Un pour les dominer, tous comme des dominos tombés sous le vide d'Insta. Au lieu de savourer l'instant, l'autre déborde puis l'instant. D'après l'enfer démarre, tout le monde se noie dans la mare. De sauver la parent, sauver la parent, vous déjà de bien fou qui n'avez d'autre que la part. Où sont les actes? Où sont les MC? Tout paraît vague, tant d'une éclaircie. Le sang dans la clip, si t'as une rame précise, tant qu'on m'apprécie. Tout sans qu'elle te réussisse. Silence, 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 s'identifie dans ce vortex de pantin fait d'artifice. Silence, silence, c'est un silence, 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 c'est selon celle que l'on sait. La matrice nous vend la violoncelle, éduquant, mettant des violoncelles. Non, les tu n'enfermes pas de violoncelle, tout putain l'on sait. Le début, la fin d'un épisode à l'auto se fait peur au final. Le débat n'ont plus rien d'équivoque, au centuple, on s'entête, on s'étale, on s'ampute, on s'enferme, on s'affaire, on se parle ensemble des choses qui nous unissent au départ. Comment saurait-on à l'avance les menaces? Attends, suivre le signal sur tout ce que tu inhales. C'est pareil au final, on va tous finir ensemble. Attends, suivre le signal, moi. Attends, suivre le signal, meurt. C'est pareil au final, tout ce qu'on fait mal, doit-on le faire ensemble?
Arms, avec ce morceau post-vérité, tiens, on a écouté quoi aussi Radio Nova, il y avait Clément Viktorovitch. Clément Viktorovitch qui a toujours une analyse assez pointue des faits, et ça, ça fait plaisir. Et puis évidemment, merci à Pascal Praud hein, de CNews pour cet hommage à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Tiens, on continue dans la Cour des Miracles. Dans cette dernière partie sur la post-vérité, après on attaquera de la philo aussi, avec le déterminisme et puis la novlangue de George Orwell. Là, on va laisser la parole à Christine Kederlan et Laurent Féby de Xerfi Canal.
Quand Alexis de Tocqueville arrive aux États-Unis en 1831 et qu'il découvre ce qu'est une démocratie, il s'étonne d'abord de trouver dans les journaux des articles diffamatoires contre des personnalités publiques. En France, sous Louis-Philippe, ces journaux auraient été censurés ou interdits. Il évoque le sujet avec des notables locaux qui lui expliquent que certes, de tels articles peuvent faire beaucoup de mal et qu'il faut attaquer leurs auteurs en justice, mais que, comme les journaux sont extrêmement nombreux aux États-Unis, chaque organe de presse, pris individuellement, possède en réalité peu de pouvoir et qu'avec le pluralisme, la vérité finit toujours par triompher. Pour eux, la liberté de la presse est non négociable, elle est le pilier de la démocratie. Deux siècles plus tard, et après 20 ans de réseaux sociaux, les fake news n'ont jamais été aussi nombreuses. Et après 25 ans de Google qui nous promettait de nous faire entrer dans la société de la connaissance, il n'y a jamais eu autant de platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate. Pire, Trump a choisi comme ministre de la Santé un homme qui prétend que les vaccins sont responsables de l'autisme. Et il a confié le soin d'alléger l'État à Elon Musk, dont un tiers des messages mis en ligne pendant la dernière campagne électorale, selon une enquête du New York Times, étaient faux ou délibérément trompeurs. 24 heures avant l'élection, Musk a encore retweeté des messages déformant les propos de Kamala Harris sur le contrôle des armes à feu ou les émigrés, afin de déchaîner l'indignation. Et pour plaire à Trump, avant même son investiture, Meta, donc Facebook, vient de changer sa politique de modération et supprimer son programme de fact-checking, ce qui ouvre la voie à des contenus encore plus dangereux au nom de la liberté d'expression. La moitié des 330 millions d'Américains semblent se moquer totalement de la vérité dans l'espace public. Ils acceptent non seulement l'exagération et la caricature, mais aussi le mensonge volontaire comme arme de campagne légitime. Trump a inventé les vérités alternatives et ignore les réalités scientifiques. La France n'est pas épargnée par ce phénomène. Souvenez-vous du soutien populaire dont jouissait le professeur Raoult, pourtant dénoncé par toute la communauté scientifique. Peut-on encore espérer que la pluralité sur Internet finira par faire triompher la vérité? Dans une démocratie, on doit refuser la normalisation du mensonge et sanctionner ceux qui le propagent. Mais les efforts des médias qui créent des rubriques vraies ou fake ou info ou intox pour essayer de rétablir la vérité paraissent bien dérisoires. Nous sommes, paraît-il, dans l'ère de la post-vérité, un concept apparu en 2016 dans le dictionnaire Oxford après la campagne du Brexit et la première élection de Donald Trump. L'ère de la post-vérité, c'est le moment où les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que les appels à l'émotion ou les croyances personnelles. Autrement dit, lorsque la vérité devient secondaire, inutile, non pertinente pour expliquer le monde. En France, l'ère de la post-vérité triomphe depuis longtemps en matière économique, alors que nous avons accumulé plus de 3 200 milliards d'euros de dettes et un déficit abyssal. Les politiques de tous bords se battent pour de nouvelles dépenses et encouragent les électeurs dans leur inconscience. L'expression « responsable politique » est devenue un oxymore. Le problème n'est pas que la vérité, notre faillite financière, soit contredite ou attaquée, c'est qu'elle n'intéresse plus personne. Pourtant, il n'existe pas ici non plus de vérité alternative.
La vérité est trop souvent devenue une simple variable d'ajustement. Les faits, on les relativise, on les conteste, on va même jusqu'à les transformer outrageusement. Ce qui compte, ce n'est plus de convaincre avec des preuves, mais de semer le doute, de brouiller les repères. La post-vérité, ce n'est pas une autre réalité imposée, c'est une réalité éclatée. Chacun choisit son récit et mobilise les faits qui lui conviennent. Et dans ce chaos où l'émotion prend le dessus sur la raison, la vulgarité politique trouve un terrain de jeu idéal. Délégitimer les médias, tourner les experts en ridicule, humilier ses contradicteurs. Voilà les nouvelles armes politiques. L'objectif, pas de proposer une vision du monde alternative, mais de rendre tout débat impossible. Quand les mots perdent leur poids, quand tout finit par se valoir, il ne reste plus que du bruit. Et c'est là que la vulgarité politique s'engouffre. Plus besoin d'argumenter, il suffit d'attaquer, de choquer, de saturer l'espace médiatique avec des punchlines assassines. Auparavant, un écart de langage, c'était un dérapage qu'il fallait rattraper. Aujourd'hui, c'est une méthode de communication. On ne séduit plus par un raisonnement et des faits. Désormais, on écrase par le vacarme. Insultes, mépris, caricatures outrancières. Ce ne sont plus des erreurs, mais des stratégies assumées. La nuance est devenue une faiblesse, la brutalité une preuve d'authenticité. Le schéma est bien rodé. Une phrase choc, une vague d'indignation, une posture de victime, et ça recommence. La post-vulgarité ne se contente pas d'exister, elle s'auto-alimente. Plus elle suscite de réactions, plus elle se renforce. Ce qui compte, c'est désormais de déclencher l'émotion et de déstabiliser. Alors, la vulgarité en politique, c'est seulement du tempérament ou une vraie stratégie ? La réponse est claire, c'est un choix délibéré. Un moyen de détourner l'attention, de galvaniser un électorat qui, hélas, en redemande. L'histoire a déjà connu ce scénario. Quand le vacarme remplace le débat, quand l'invective écrase la raison, la politique bascule. Hitler, Mussolini, Staline, tous ont commencé par délégitimer la vérité, ridiculiser l'opposition, saturer l'espace public de slogans et d'excès. Il ne faudrait pas prendre la menace à la légère. On connaît malheureusement la suite de l'histoire.
Orelsan avec l'odeur de l'essence sur Radio PFM 99.9. Post-vérité, c'est la cour des miracles. Yes.
PFM, sans pub. Sans pub.
Bienvenue à la radio, la cour des miracles.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes allumés. Mais
l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence.
L'odeur de l'essence.
Aurel San, PFM.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réac, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
PFM, la cour des miracles avec tous mes gars. On part en impro et je m'arrête pas.
La cour des miracles.
De l'avenir et des motifs d'espérer. La post-vérité se joue par deux vers nous, car les algorithmes s'adressent à notre part obscure qui souhaite se débarrasser autant que nécessaire et possible de la réalité. C'est cela qu'ils offrent de si grisant et irrésistible. La toute-puissance des fantasmes, l'effacement de la frontière entre le moi et l'image du moi. En satisfaisant en priorité les besoins de certitude et d'affection, ils ne peuvent qu'entraîner les réflexions sur le terrain des rationalisations fallacieuses et des paniques morales. Ce faisant, ils enferment dans la plus subtile des servitudes volontaires. Nous justifions l'injustifiable et nous élaborons des raisons d'accepter ce qui ne peut l'être. Le doute tend à être relégué dans un recoin peu visité de notre esprit. De toutes les façons, la vérité est ennuyeuse et nous tolérons de moins en moins l'ennui. Un pouvoir arbitraire trouvera en nous des complices plus que consentants, enthousiastes. Ce débat, qu'il ne sera plus possible d'avoir entre nous, se réglera par la criminalisation du désaccord. Le tableau vous semble désespérant ? Conservez ce sentiment comme votre bien le plus précieux. Cultivez-le, choyez-le. Il est la preuve que vous avez su en partie résister à la bulle cognitive que les algorithmes ont tenté de former autour de vous. Il est difficile de prévoir jusqu'où ira la polarisation. la nécessaire prise de conscience de la post-vérité se heurtera à une foule de résistance. Nous sommes toujours plus complaisants envers nous-mêmes que nous ne sommes prêts à l'admettre. Il est plus facile et reposant de débusquer le complice de la post-vérité en autrui. Qui peut vivre confortablement dans l'idée qu'il comprend si peu de choses que son savoir se ramène au fond à quelques grains de poussière dérisoires dans le vaste espace des connaissances? Il faut dire que la généralité et la profondeur de la post-vérité ont de quoi susciter l'incrédulité. Nous ne pouvons à ce point nous fourvoyer et avancer collectivement vers l'abîme. La situation ne peut être aussi grave. Vraiment ? Que l'on pense au dérèglement climatique en cours, l'humanité est loin, très loin de remédier à la catastrophe à venir. Plus généralement, les limites planétaires sont franchies une à une. Au surplus, on conçoit aisément le décalage susceptible d'être éprouvé entre le cercle de relations sociales qu'on s'est choisi, raisonnable forcément, et les travers décrits ici. C'est justement parce que ces derniers sont subtils et opèrent sur le temps long qu'ils peuvent passer relativement inaperçus. L'irruption de l'IA générative et son ubiquité future revêtent une importance cruciale. Cela étendra certainement l'empire du faux, qui n'avait pas besoin d'elle pour régner. Face à l'exacerbation de l'incertitude induite par l'IA générative, il pourra sembler plus sage de ne plus se préoccuper que de son entourage et que de ses petits plaisirs, abandonnant la grande société à la déraison de la post-vérité. Toutefois, il est probable que l'on développe à l'avenir des applications permettant d'identifier l'authenticité d'une vidéo ou d'un texte. Il est indéniable que si la technologie tient ses promesses, les sociétés humaines en seront irrémédiablement chamboulées. Tout d'abord, pour la première et ultime fois de l'histoire, c'est le travail intellectuel humain qui pourrait être remplacé à très large échelle. Jusqu'ici, les innovations avaient surtout permis d'économiser de la force physique ou motrice. Les ordinateurs n'avaient eu qu'un impact modéré sur les chiffres de la productivité. À moyen et long terme, l'essentiel des métiers de service que forment les 4/5 de l'emploi des économies avancées sera menacé, à l'exception des postes de direction, de réparation, entretien et des tâches qui nécessitent une authentique créativité. Le travail humain est en passe de perdre sa centralité dans les sociétés. En outre, il nous faut imaginer un monde où les interactions numériques se feront majoritairement avec des algorithmes. Plus fondamentalement, il n'y a aucune fatalité dans la post-vérité. Celle-ci subsistera aussi longtemps que le capitalisme numérique ne sera pas fortement régulé ou abandonné. Si nous transformons notre société économique, si nous imposons par la loi une autre structuration aux algorithmes, alors le pire sera évité. L'aspiration au vrai retrouvera des couleurs. Il sera relativement simple de fonder l'algorithme sur d'autres critères que l'engagement, par exemple la réflexion critique ou la qualité scientifique. Il serait également possible d'obvier à la formation de bulles cognitives par la fourniture d'informations divergentes. Et plus le consommateur se tournerait vers du contenu homogène, plus l'algorithme orienterait vers un contenu contradictoire. Du reste, la nécessité de réduire l'empreinte écologique de l'activité humaine impliquera peut-être une sortie de ce capitalisme destructeur de la planète. Ces deux enjeux se rejoignent en ce qu'ils partagent en même cause, qu'ils appellent une solution similaire. Cette solidarité de fait est un motif d'espoir. Après tout, le capitalisme, juvénile au regard de l'histoire, pourrait avoir fait son temps. Après avoir rendu les services d'extraire une partie substantielle de l'humanité du problème économique, celui de la subsistance, il aurait intérêt à céder la place à un autre système, en raison de son incapacité à répondre aux défis pour lesquels il n'a pas été conçu. La sauvegarde et la réparation de la planète, ainsi que l'aspiration à la vérité et à l'amélioration spirituelle. La nécessité commande d'ouvrir les yeux et d'imaginer des remèdes appropriés. L'humanité a prouvé qu'elle savait évoluer. Elle a déjà changé des systèmes économiques. Elle est capable de le faire à nouveau. Les circonstances y aideront, dans un contexte où le travail humain perdra sa centralité. En effet, son remplacement par la machine pensante forcera à repenser la finalité de l'économie. Une semaine de travail réduite à 15 ou 20 heures, comme cela est probable à horizon de 30 ou 40 ans, amènera à reconsidérer le sens à donner à nos existences. peut-être l'attachement suicidaire à un mode délétère de production et de diffusion de l'information sera-t-il considéré avec sévérité par les historiens du futur ? Le regain du climato-dénialisme n'est probablement qu'un champ de cygne d'une inconscience aux abois, traquée par la réalité. L'approche des points planétaires de non-retour est propice aux crises de conscience et aux révélations. Le réel n'est pas de ces murs que l'on peut infiniment repousser. Une humanité consciente est capable des plus grands accomplissements. Voilà, c'était un peu pour finir l'ère de la post-vérité dans la cour des miracles sur Radio PFM. Ce texte, il n'était pas de moi, il était de Michael Lenné. Comment les algorithmes changent notre rapport à la réalité. C'est un livre qui est sorti aux éditions La Découverte. Voilà, vous pouvez le lire, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes crèmeries. On continue avec la novlangue, la langue de George Orwell du roman 1984.
Moi, je pense qu'une information, si elle est vraiment bien faite, elle est beaucoup plus bénéfique qu'une interdiction.
Il y a deux volets. Le premier concerne le langage courant. Il est extrêmement appauvri, il n'y a plus de distinction entre les mots et les verbes. On déshabille les mots de toutes les significations secondaires. C'est presque un monosyllabe, un objet. Et puis, un deuxième volet qui est encore plus intéressant. L'invention d'un certain nombre de mots qui vont recouvrir tout un ensemble de concepts anciens, de manière à pouvoir les étouffer et les remplacer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la censure. La censure, ça consiste simplement à interdire à quelqu'un de prononcer un mot. Le but, là, c'est de vous enlever cette pensée de la tête. En politique, on voit très bien à quoi ça s'applique, c'est les phrases toutes faites. Un journaliste vous pose une question et puis vous avez un discours tout fait, vous avez des éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, voilà, tout fait, qui vont constituer un acte de communication, mais sûrement pas un acte de pensée. Les jargons, les phrases toutes faites, les métaphores toutes faites, tout ce vocabulaire-là est un vocabulaire qui, en fait, empêche de penser. C'est un vocabulaire automatique.
Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Pensez à ce que vous dites. Essayez de ne dire que des choses que vous pensez et qui ont du sens. Défiez-vous farouchement de toutes les mécaniques de langage dans lesquelles c'est la langue qui pense à votre place, c'est-à-dire finalement ce sont d'autres que vous qui pensent à votre place. Et si vous faites ce travail sur vous-même, ça ne changera pas la société du jour au lendemain, mais c'est une condition pour la démocratie et pour une société humaine.
Alors le petit exemple de langue de bois, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. Vous les mélangez dans n'importe quel sens. Enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Vous ne dites rien d'autre que ce qui est. Voilà. C'est à peu près aussi intelligent que ça. Donc là, je les ai mélangés. Alors voilà. Mais donc on pourrait dire un truc du genre, mesdames, messieurs, je voudrais revenir sur une question tout à fait essentielle aujourd'hui, qui est celle du diagnostic partagé, que je voudrais mettre en relation, en lien avec la question du lien social. Pourquoi aujourd'hui faut-il penser un diagnostic partagé autour de la question du lien social ? Au fond, pour une raison extrêmement simple, c'est que à l'heure de la décentralisation, c'est désormais dans la décentralisation et à partir d'un diagnostic partagé que nous pouvons relever le défi de la mondialisation. Alors, inscrire le défi de la mondialisation dans une relation de proximité, cela suppose plusieurs choses. Cela suppose de repenser la citoyenneté sous l'angle des relations interculturelles, c'est-à-dire de l'inscription, si vous préférez, de la mondialisation dans l'espace désormais incontournable du local. Alors, à cette condition, je crois qu'on peut repenser d'une façon beaucoup plus adéquate la question un peu vague, finalement, de la démocratie sous la forme d'une procédure de participation avec les habitants. Ça marche tout seul, ça vient tout seul. Je ne sais pas quelle est la prochaine, mais je veux dire, ça va marcher. Donc, parce que si on veut faire, je ne sais pas ce que c'est, hein, si on veut faire la participation avec les habitants, j'appelle ça du partenariat. Et ça veut dire qu'on prend les habitants pour des acteurs. Alors, des acteurs, ça suppose d'être sérieux avec eux, ça suppose de passer avec eux un véritable contrat de développement local. Et au fond, quand on est à gauche, quel plus beau projet.
C'était Franck Lepage, militant éducation populaire, pour nous expliquer un peu la langue de bois. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio PFM 99.9, c'est la cour des miracles. Voilà, on a parlé post-vérité, là c'était la novlangue et la langue de bois. Et tiens, nous on va essayer de faire un petit dernier délire, ça va être philosophie, tiens, avec le déterminisme. Qu'est-ce que le déterminisme? On va laisser la parole à Simon Delannoy et Philosophe pour expliquer ça, le déterminisme.
La cour des miracles.
L'être humain est profondément égocentrique. Chacun croit être le centre de l'univers. On n'y peut rien, c'est dans notre nature. Nous aimons les intrigues, les complots. Nous aimons jouer à nos petits jeux absurdes. Comme pourquoi on pense être le centre du monde alors qu'on n'est rien. Mais à la vérité, ça n'a aucune importance. En fait, j'ai compris une chose que la plupart des gens ont peur d'admettre. L'univers est indifférent. Il se fiche pas mal de nos petits problèmes stupides, ou de nos petits plans minables, ou de nos petits cœurs fragiles. C'est l'univers qui décide pour nous.
Le philosophe Pagny a déclaré un jour...
Mais vous n'en avez pas... La liberté de penser.
Est-ce que Pagny est réellement libre de penser ce qu'il pense, ou est-ce qu'il a l'illusion d'être libre de penser ce qu'il pense? Pour faire simple, avons-nous vraiment un libre arbitre? Dans la vie, on fait des choix. Et nous avons tous l'intime conviction d'être les auteurs de nos décisions. On sait très bien choisir entre une fondue ou une raclette, une Xbox One ou la PS4. Caris ou Booba. Et en tant qu'auteur de nos décisions, on est également capable de bien agir. Ou pas. C'est ce qui entraînait notamment la question du mal sur Terre vers le 4e siècle après Jésus-Christ. Si on en croit les théologiens, Dieu est censé être bon. Cependant, si on observe le monde, on se rend bien compte que tout ne va pas bien. Le mal existe. Et la question est, d'où vient-il? Et là, soit c'est Dieu qui a créé le mal, mais c'est pas possible vu qu'il est censé être bon. Soit Dieu, bah, il n'existe pas. Mais ces deux considérations ne sont pas possibles pour quelqu'un comme Saint Augustin. Saint Augustin, dans Traité du libre arbitre, soutient le fait que les hommes possèdent nécessairement un libre arbitre. Et il émet le raisonnement suivant. Les hommes sont doués de raison. Ils possèdent donc le libre arbitre. Ils peuvent donc choisir entre le bien et le mal. Par conséquent, ils peuvent agir bien ou mal. Le mal ne vient donc pas de Dieu. Avec ce raisonnement, on aurait tendance à penser que le libre arbitre est un prétexte. Il doit exister nécessairement parce que son absence a de lourdes conséquences. En effet, s'il n'y a pas de libre arbitre, on ne peut pas imputer la responsabilité des actes aux individus. Mais la question est, d'où vient l'idée de libre arbitre? Et cette question, c'est Nietzsche qui se l'est posée dans le Crépuscule des idoles. Selon lui, le libre arbitre est une fiction qui profite surtout à la morale judéo-chrétienne. Il dira même « Si l'on a conçu les hommes libres, c'est à la seule fin qu'ils puissent être jugés et condamnés afin qu'ils puissent devenir coupables. » Et en effet, c'est beaucoup plus simple de faire culpabiliser quelqu'un en disant qu'il était libre d'agir autrement que de mettre en relief les circonstances extérieures qui expliqueraient la manière dont il a agi. Imaginons la chose suivante, une pierre que l'on jette en l'air. Celle-ci va monter, puis un moment redescendre car elle obéit à la loi de la chute des corps. On dit qu'elle est déterminée par les lois physiques qui régissent notre univers. Maintenant, admettons que cette pierre soit douée de conscience. Cette pierre nous expliquera qu'elle a choisi d'agir de la manière dont elle a agi, selon le philosophe Spinoza. Pour ce philosophe, les êtres humains fonctionnent comme cette pierre. Le libre arbitre n'existe pas, c'est une illusion. Il dira la chose suivante. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Pour Spinoza, nous ne savons pas ce qui nous pousse à agir comme on agit et à penser ce que l'on pense. Il y a toujours des causes psychologiques, sociologiques ou culturelles qui vont venir influencer nos choix. Et par conséquent, il n'y a pas de libre arbitre. Et c'est vrai que la plupart des gens savent ce qu'ils font, mais combien ont conscience de pourquoi ils le font? Ainsi, d'après Nietzsche et Spinoza, il y a de fortes raisons de croire qu'on n'est pas aussi libre qu'on voudrait le penser. Et ça serait cool d'interroger la science et en particulier les neurosciences là-dessus.
Thank you. Ah, mon Tobin. Des miracles.
FM, sans pub.
Alors le thème, libre arbitre, déterminisme. Quand je fais quelque chose, n'importe quoi, instinctivement, je vais me dire que j'ai décidé moi-même de le faire et que l'acte découle de ma volonté qui n'est influencée par rien d'autre qu'elle-même. On se voit comme cause première de nos actions. Donc, je bois un verre d'eau librement. Mais j'ai bu ce verre d'eau parce que j'avais soif. Problème, comme j'avais soif, j'ai bu, je devais boire. C'était déterminé. Mais on peut dire que bien que je ressentisse ce besoin, j'ai quand même décidé moi-même de boire et c'est quand même ma volonté qui a tranché. J'aurais pu faire autre chose. Me gratter par exemple. Mon bras me démangeait au même instant. Admettons, mais si ma volonté m'orientait vers ce verre, c'est que le grattage était moins urgent que de boire au moment où ça s'est produit. L'eau était à portée de main et ma démangeaison est tombée dans l'oubli. Donc ma volonté a été orientée et déterminée. Là je peux me dire, bah non, par exemple là j'ai encore soif et je vais pas boire. Comme quoi je peux choisir de ne pas faire une chose même si j'en ressens le besoin. Eh non, grossière erreur. Si j'ai pas bu ce verre, c'était pour démontrer que je pouvais ne pas le boire. Et la tentative de cette démonstration m'a forcément guidé à ne pas le boire. Et en croyant démontrer une chose, je prouve l'inverse. J'ai cru faire abstraction de la cause, entre parenthèses la soif, pour démontrer que je choisis librement de ne pas m'y soumettre, mais la cause s'est juste déplacée. Si j'ai pas bu, c'était pour démontrer que je pouvais pas boire malgré la soif, et c'est bien ça la cause, et elle a conditionné mon action. Alors là je peux me dire, une fois dans un voyage, il me restait de l'eau, j'avais super soif, et il y avait mon petit frère assoiffé également, mais comme il est plus fragile que moi, j'ai pesé le pour et le contre, et je lui ai donné les trois quarts du verre, j'ai bu le reste. Donc je réagis pas qu'à des causes comme ça quoi, j'ai aussi de la réflexion, et c'est ça la liberté. Certes, j'ai jaugé, jugé, tranché, mais tous les éléments que j'ai énumérés ont déterminé mon choix final. D'abord je vois l'eau, j'ai soif, mon petit frère aussi, mais il est plus fragile et je sais ça, du coup je lui donne une grande portion d'eau, j'estime moi pouvoir en prendre un peu et avoir bien agi. Mais tous ces éléments sont des causes très précises qui guide anneau après anneau la chaîne causale qui aboutit à l'action. Et même en s'agissant de choses abstraites, morale, bienveillance à l'égard d'un être, altruisme, etc., chacun de ces paramètres sont en moi et sont autant de causes qui expliquent l'action finale. Donc on peut supposer qu'un génie omniscient, connaissant tous ces paramètres, saurait ce qui se passerait. Dans le cas précédent, je suis pas moins déterminé que si j'avais été égoïste et que j'avais bu le verre rapidos comme aurait fait un animal ou un égoïste, on va dire. Dans mon cas, le processus intellectuel et moral allonge la liste des éléments déterminants, mais le principe reste le même. Si on nie la causalité dans la détermination totale de nos actes, le hasard reste plus sérieusement crédible que la volonté autonome. Mais comme le hasard n'existe pas et n'est que le nom qu'on donne à ce dont on ignore la cause, ça ne marche pas non plus. Quand on jette des dés ou quand on fait tourner la roulette, etc., on croit au hasard. Mais non. Si on sait avec quelle force ils ont été lancés, dans quelle position ils étaient dans la main du lanceur, comment est composé le sol où ils vont atterrir, si on avait toutes ces données mathématiques, on saurait quel chiffre tomberait. Donc là aussi, il y a toute une série de causes. Voilà. Donc le hasard n'a rien à voir là-dedans. Si on médite un peu, l'idée de libre volonté autonome, autarcique, n'a pas de sens dans la chaîne causale et dans tout ce qui se passe dans l'univers en mouvement. Ça supposerait une volonté libre dans le vide. C'est un non-sens. Il n'y a pas d'espace vide dans lequel pourrait se loger une liberté autonome non influençable. La volonté, comme le feu sans oxygène, meurt dans un espace non causal. Elle ne s'active pas. Méditez bien cette métaphore. Et on peut même dire que tout ce que nous ne faisons pas est cet espace non causal, ce qui n'a pas été déterminé. C'est un néant. Voilà. Parce qu'on se figure toujours notre volonté comme un spectre, un fantôme qui se superposerait aux aléas de l'espace-temps, en fait. À la vie, quoi. Mais c'est faux, parce que si t'enlèves l'espace-temps, la vie, le monde, il te resterait quoi, ta volonté toute seule, dans le vide? Ça ne veut rien dire, c'est absurde, et on oublie nous autres, les hommes, de quoi on est fait. On est du verbe naître instinctif, stimuli, action, réaction, des animaux quoi. Et on grandit, la conscience se développe, les instincts sont intériorisés, on se complexifie, mais faut pas s'y tromper. On persiste dans ce va-et-vient d'action-réaction à chaque instant, et on n'a pas plus de libre arbitre que le bébé qui se l'échouille les doigts de pied.
Bref, en 1873, pendant la période bouc et moustache, Amédée Bollé commercialise en France la première automobile. Elle s'appelle l'Obéissante, déjà un fantasme masculin. Pendant ce temps, en Pennsylvanie, Edwin Drake, barbe et moustache, fort un puits de pétrole et provoque la naissance de l'industrie pétrolière. Il devient très riche. À peu près à la même époque, à Mussy-la-Ville, en Belgique, Jean-Joseph Étienne Lenoir, qui porte très bien la moustache, invente le premier moteur à combustion interne. C'est ce moteur qui conviendra le mieux à la voiture. L'humidité est un vrai fléau pour ma salle de bain. Mais depuis toujours, celle qui s'évapore depuis les grandes étendues d'eau se refroidit et se condense dans le ciel en nuages. Des gouttes se forment, elles tombent, il pleut. Entre deux taillades de bouc et moustache, Amédée Bollé réfléchit au meilleur moyen de vendre l'Obéissante. Pendant ce temps, Thomas Edison, propre sur lui et bien rasé, invente la lampe électrique. En 1908, le Fordisme créé par Henry Ford, tout le temps bien rasé aussi, popularise l'automobile et le rend très riche aussi. De plus en plus de gens ont accès à la voiture. Dans les années 80, mon père, dans sa période moustache, convaincu par les publicités dans leur période cocaïne à gogo, achète une voiture pour aller à la campagne avec mon frère et moi. La rotation de la Terre sur son axe fait alterner la nuit et le jour. En hiver, les nuits sont plus longues, tôt le soir, il fait déjà nuit noire. Il y a des voitures partout, il faut aménager les routes, les garnir de platane, les équiper de lampadaires éclairant la chaussée grâce à des ampoules. Dehors, il y a plein de lumière. À 12 ans, 3 mois et 6 jours, j'étais dans une voiture imaginée par Amédée Bollé, roulant grâce au moteur imaginé par Jean-Joseph Étienne Lenoir, alimentée par de l'essence trouvée par Edwin Drake, achetée par mon père grâce à Henry Ford, la publicité et les cocaïnomanes, sur une route de nuit éclairée par les ampoules inventées par Thomas Edison. Il pleuvait, j'ai posé ma tête contre la vitre. C'était l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Bref, des fois j'y pense. Et je souris.
Bienvenue à la radio, la cour du miracle.
Alors important, hein, la thèse à retenir, c'est que ce que nous faisons, nos agissements découlent de causes, et au même titre qu'il y a un infiniment grand et un infiniment petit, il y a un infiniment causal. On peut pas remonter toute la chaîne de causalité, c'est impossible. Et tout ce qui se passe, s'est passé et se passera est déterminé, non pas par un principe divin, mais parce que tout est statistiquement mesurable et explicable. Mais ça n'empêche pas de constater que quand on fait un choix, c'est bien nous qui l'avons fait. Tel choix, telle chose était déterminée, parce que l'univers fonctionne ainsi, mais je l'ai tout de même fait librement, c'est bien ma volonté qui agit, et je peux évidemment penser que j'aurais pu faire d'autres choix.
Voilà, je viens juste d'acheter 50 packs d'eau, comme ça on sera à l'abri pour la famille.
Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi ?
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
Bref, j'ai fait un choix.
Vous l'aurez sûrement reconnu, c'était Kian Kojandi avec cette superbe série, bref. On arrive à la fin de l'émission, c'était la cour des miracles. On a parlé un petit peu post-vérité, on a parlé déterminisme avec de la philosophie et puis la novlangue que vous pourrez retrouver dans ce livre 1984 de George Orwell. Je voulais aussi revenir sur le livre Michael Lenné, l'ère de la post-vérité. Comment les algorithmes changent notre rapport à la réalité. C'est aux éditions La Découverte. En attendant la prochaine émission, moi je vous dis, chérissez votre famille, vos amis et tous ceux qui vous entourent. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les ondes de Radio PFM et évidemment sur le www.radiopfm.com pour les podcasts. Il y a aussi un Facebook. Allez, bisous tout le monde, à la prochaine. Ciao.